Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
19h sur Radio Présence, bienvenue, vous êtes à l'écoute de Soif d'autre chose, votre émission hebdomadaire, tous les lundis en direct de 19h à 20h sur toute la région Expédie-Pyrénées pour vous accompagner dans ce début de soirée. Louis-Marie Gabriel, bonjour Louis-Marie, comment vas-tu?
Bonjour Enzo, ça va très bien et toi?
Bah ça va très très bien. Bon, ça fait pas trop longtemps hein, qu'on s'est pas vu.
Et oui, c'était juste hier.
C'était juste hier, nous étions à l'antenne tout le week-end pour vous faire découvrir Exode 2026, pour couvrir ce bel événement. Plus d'un millier de jeunes étaient rassemblés à Lourdes. On va vous en parler dans quelques minutes. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé et sur le reste du programme, Louis-Marie.
Sur le reste du programme, eh bien, un peu de musique. On va aussi du coup vous refaire vivre avec nous deux entretiens parmi les beaucoup d'autres qu'on a eus pendant ce week-end, avec Monseigneur Haillé ainsi que les Gunel, les réalisateurs du film Le Sacré-Cœur.
Et Louis-Marie, tu vas nous parler de quel saint aujourd'hui?
Alors plus tard en fin d'émission, je vous parlerai de Saint-Dominique Savio qu'on fête aujourd'hui et qui est pour nous jeunes un très très bon modèle de sainteté. Une sainteté qui a vécu dans la joie.
Merci beaucoup Louis-Marie. On te retrouve dans quelques minutes en fin d'émission, enfin, quelques minutes en fin d'émission pour nous faire découvrir ce saint. Voilà, le programme est lancé. C'est parti pour Soif d'autre chose. Et on commence Soif d'autre chose avec de la musique. C'est Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. C'est Je te donne sur Radio Présence. On se retrouve juste après pour vous faire un petit point sur Exode et ce qui s'est passé durant tout ce week-end. Très bonne soirée sur Radio Présence, à notre écoute.
I can give you the voice bred with rhythm and soul, the heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring, carry thoughts in the songs we sing.
Je te donne mes notes, je te donne mes mots, quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois, ce que j'imagine, que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On ne sera jamais les standards des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux.
I can give you the force of my ancestral pride, the will to go on when I'm deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day.
Je te donne nos doutes et notre indicible espoir, les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brûlées, l'on parle un peu fort, et l'humour et l'amour sont nos trésors. Je te donne qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux.
Thank you.
19h05 sur Radio Présence, c'était Jean-Jacques Coleman et Michael Jones avec Je te donne Louis-Marie. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce week-end, parce qu'il s'est passé un grand événement à Lourdes.
Et oui, l'événement qui ressemble chaque année en début de carême, enfin en tout cas le premier week-end de mars, tous les jeunes de la province du Sud-Ouest pour se retrouver à Lourdes pour la session Exode, qui est cette année pendant sa troisième édition. Cette année, les chiffres ont été grandement élevés, plus de 1000 jeunes venant de Toulouse, Bordeaux,
Et Montpellier.
Montpellier aussi, et tant d'autres qui étaient là. Qui ont répondu présent à l'appel pour venir au pied de Marie pour vivre ces trois temps, ces trois jours d'Exode, avec le premier jour où nous arrivions donc vendredi, où nous étions desséchés. Le livre de l'Exode nous dit « Donne-nous de l'eau à boire » et c'est la vision qu'Exode a voulu nous transmettre. Pour ce premier jour, dans le désert, Dieu parle à Moïse. En Égypte, il guide son peuple. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, il vient nous rencontrer. Et la session Exode va offrir la possibilité d'une rencontre personnelle avec Dieu et avec les autres. Donc on a vécu ce temps-là avec une belle plénière d'ouverture qui a été suivie d'une vénération de la croix, ce qui est tout à fait cohérent pour un vendredi carême, bien que la vénération de la croix est souvent réservée au vendredi saint, mais on accepte aussi avec joie cette belle initiative. Également une exhortation du frère Maxime Arcelin qui était venu sur nos antennes il y a quelques mois. Donc on a pu vivre ce beau temps d'introduction à cette session le vendredi. Le samedi, Exode nous propose de nous ressourcer, toujours en suivant le livre de l'Exode avec ses paroles. « Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Pour Israël, Dieu est le libérateur, pour l'opprimé, il en est le défenseur, pour le cœur anxieux, il est le prince de la paix, et pour nous, il est le salut. Dieu sauve, il a sauvé Israël d'Égypte, il nous a sauvés en Jésus-Christ du péché et de la mort. » La session Exode, elle, veut nous ouvrir et une vie de salut, le salut qui vient du Dieu unique et sauveur. Et enfin, le troisième jour, nous étions vivifiés, avec évidemment tout au long de cette session hein, des messes, hein, avec une messe d'ouverture le samedi et une messe de clôture le dimanche. Le samedi également, pour revenir dessus, il y a eu aussi des temps de rencontres, des temps de conférences aussi, donnés par beaucoup des intervenants, qu'on a pu aussi avoir ici à Radio Présence. On en a pu les interviewer directement sur place, au village des jeunes de Lourdes, qui était le lieu un peu de rassemblement de cette session. Donc voilà, on aura l'occasion de vous en reparler et de vous en faire profiter aussi. Et donc nous repartions le dimanche en étant vivifiés, toujours en suivant cette fois-ci l'évangile selon Saint Jean. Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra pour lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. En ce dimanche, dernier jour d'Exode, les catéchumènes ont pu vivre aussi leur premier scrutin, les étapes ultimes vers le baptême. Tous ont répondu présents également à ce beau moment qui était placé encore une fois sous le regard de Marie dans cette belle basilique Saint-Pédis à Lourdes qui a pu accueillir tous ses participants tout au long de cette session. Et là pour terminer aussi avec les quelques mots que nous donne cette session Exode, pour ce dernier jour, Dieu transforme les Hébreux en peuple de Dieu, il transforme le scandale de la croix en trône de salut, il nous transforme en fils et en filles, et nous sommes faits pour plus, nous sommes faits pour la grandeur. La vocation chrétienne est une vocation à la sainteté. Et la session Exode a voulu offrir à ses participants une vraie transformation des cœurs.
Merci beaucoup Louis-Marie pour ce retour sur Exode 2026. Exode que vous avez pu suivre en direct sur Radio Présence, mais que vous pouvez aussi retrouver. Vous pouvez retrouver les nombreux reportages, le plateau que nous avons fait du journal d'Exode de 16h à 18h le samedi, les messes, les plénières d'ouverture sont disponibles en podcast sur le site radioprésence.com.
On peut aussi rappeler hein, pour que ce plateau exceptionnel qu'on a eu pendant 2 heures, on a pu avoir beaucoup d'invités de marque, on a pu avoir 3 évêques. Monseigneur Mika, évêque de Lourdes, évidemment, on l'a accueilli chez lui pour qu'il nous parle de Lourdes et son message. On a également eu Monseigneur Hayé pour parler de la liturgie qu'on écoutera tout à l'heure. On a aussi eu Monseigneur Garimel, notre évêque à nous, qui nous est bien cher. Également le Père Gaspard Craplé qui nous a parlé de ses 2 livres sur la joie de la confession et aussi sur la chasteté. Quoi d'autre, Enzo?
Nous avons aussi les réalisateurs du film Sacré-Cœur que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants après l'entretien de Monseigneur Hayé. Et justement, pour préparer cet entretien, votre écoute, nous vous proposons un peu de musique, c'est Écoute ton Dieu t'appelle, avant de retrouver Monseigneur Hayé sur la liturgie.
Accueille le Christ, il est ton sauveur.
19h13 sur Radio Présence, on écoute maintenant un des entretiens qu'on a eu samedi pendant la session Exode avec Steven et Sabrina Gunnel.
Monseigneur Ayé d'abord sur Radio
Présence. Excusez-moi, c'est pas tout de suite, mais du coup maintenant Monseigneur Ayé, pardonnez-moi.
Et après Steven et Sabrina Gunnel.
Voilà, Monseigneur Ayé sur la liturgie.
La suite de nos entretiens sur Radio Présence en direct depuis le village des jeunes au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes pour cette session Exode 2026. Nous recevons avec nous en plateau Monseigneur Ayé, évêque de Bayonne-Lescar-Oloron. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Alors Louis-Marie, on va parler aujourd'hui d'un entretien, un sujet, une thématique qui est chère aux jeunes, la liturgie.
Et oui, tout à fait, la liturgie c'est très important parce que les jeunes sont en recherche de sens, ils veulent voir aussi du beau et se déconnecter un peu du monde extérieur pour viser un peu le ciel. Et la liturgie en est une représentation parfaite. Donc on va commencer un peu déjà par introduire, Monseigneur, qu'est-ce que c'est brièvement la liturgie ?
C'est une grande question à laquelle vous savez que l'Église a répondu, en particulier dans un très beau document auquel je renvoie volontiers les jeunes, qui est un document du Concile Vatican II, qui a d'ailleurs été le premier qui a été voté et promulgué, qui s'appelle en latin « Sacro Sanctum Concilium » sur la Sainte Liturgie, et qui est d'une certaine manière l'aboutissement de tout un mouvement liturgique qui a traversé l'Église depuis la moitié du XIXe siècle, qui a commencé avec Don Guéranger, le fondateur de l'abbaye de Solesmes, qui a travaillé beaucoup à la restauration de la liturgie romaine, et en particulier du chant grégorien, et dont le commencement officiel est le motu proprio du pape Saint Pie X, en 1903, qui s'appelle Tra les Sollicitudini, parmi les préoccupations principales du Saint-Père, sur la restauration de la musique sacrée, dont le grand principe est de restaurer la liturgie romaine dans sa beauté, dans son intégrité, en particulier en permettant une plus grande participation des fidèles, afin que cette participation soit la source d'une vie authentiquement chrétienne. Donc la liturgie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la célébration de l'acte de notre rédemption. Il y a un très beau texte au début de cette question qui dit « Dans la liturgie s'accomplit l'œuvre de notre rédemption. » Et comment nous avons été rachetés, sauvés, par la mort et la résurrection de Jésus. Ça veut dire que la liturgie, c'est la célébration du mystère pascal de Jésus. Et donc ça nous permet d'entrer dans cet acte par lequel le Seigneur nous a sauvés. Donc c'est dire l'importance. Il nous a sauvés, il nous a fait passer de la terre au ciel. Ça fait passer ce passage, la Pâque. Ça fait passer du monde du péché, du monde des ténèbres, à la lumière, du péché à la grâce, de la mort à la vie et à la vie éternelle.
Et la liturgie qui nous rappelle que le ciel commence dès ici-bas. Et donc quand on parle de liturgie, on pense forcément à la messe, mais pas seulement. Il y a aussi l'office divin qui est présent dans la vie de nombreux prêtres, de nombreux religieux. Est-ce que les fidèles aussi ont quelque chose à y trouver dans cet office divin qui accompagne tout au long de la journée, qui peut aider à sanctifier peut-être le temps présent, surtout en ce temps de carême, où parfois les efforts de prière peuvent sembler un peu secs? Est-ce que l'office, lui, peut venir apporter quelque chose dans le quotidien des fidèles?
Oui, c'est la prière de l'Église, qui en fait, dont l'essentiel est constitué par les psaumes, qui était la prière par excellence du peuple élu, du peuple de la Première Alliance. Ces psaumes, comme dit saint Augustin, qui ont été inspirés à David, qui en est l'auteur principal, pour Jésus. Et Jésus a dit les psaumes. Et il a dit les psaumes jusque sur la croix. Les dernières paroles du Christ en croix sont tirées des psaumes qui devaient réciter à la manière sémitique. On disait le premier verset à voix haute, puis en plus, il ne pouvait pas respirer sur la croix. Et le reste, il le disait dans son cœur. Et donc, c'est le Concile Vatican II, justement, a rappelé que la liturgie des heures, la récitation des psaumes dans les différentes heures de la journée, qui nous rappelle cette louange incessante qui continue au ciel, à laquelle nous unissons d'ailleurs sur la terre, eh bien, c'est la liturgie du peuple. Elle n'est pas réservée aux prêtres et aux moines, même si c'est leur premier ministère, mais ils sont appelés, tout le peuple de Dieu est appelé aussi à y participer quand il le peut. C'est important que dans les églises, on privilégie les vêpres du dimanche, qu'il y ait des temps où les fidèles peuvent se rassembler avec leurs prêtres pour dire cette prière qui rappelle la prière continuelle dans laquelle nous établissons. C'est à la fois une prière d'intimité avec le Seigneur et une prière d'intercession où nous demandons au Seigneur son secours. Et on a tellement de raisons d'intercéder pour le monde aujourd'hui.
vous en parliez en propos introductif, ce premier texte voté par le Concile, on assiste aujourd'hui à un renouveau liturgique quand même. On a certaines paroisses qui redemandent à revenir à l'essentiel du Concile Vatican II, notamment sur le chant grégorien, alors que cela avait presque été abandonné. Comment cela ça se fait? Est-ce que c'est dans l'air du temps? Est-ce que c'est un renouveau, peut-être une mise à jour de Vatican II ou plus l'éclaircissement de principes qui étaient déjà inscrits?
Je pense que parfois on a, dans la réforme liturgique, comme on le sait bien, dans sa mise en œuvre en tout cas, on a un peu appauvri le mystère. On a voulu tellement faire participer les gens qu'on a peut-être sécularisé un peu la liturgie. Et même ça s'est ressenti parfois dans la musique, qui est une musique parfois de variété, qu'on n'a pas besoin de trouver à l'église. Et on a besoin d'un sens du sacré qui renaît, chez beaucoup de jeunes aujourd'hui en particulier, qui redécouvrent Dieu, sa transcendance. Et dans un monde banalisé, sécularisé, eh bien, on essaie de retrouver une identité, hein, qui est la nôtre, celle de notre culture. Et je pense qu'on a besoin de ce sens du sacré qui doit être garanti aussi dans la liturgie, qui nous tourne vers Dieu. Hein. La liturgie, c'est vraiment l'homme qui se tourne vers Dieu par le Christ. Et il faut que la présence du Christ soit éloquente. Et quelquefois, elle est noyée dans quantité de réalités humaines, contingentes, qui nous font oublier la présence du Christ qui nous sauve à travers sa mort et sa résurrection.
Oui, ce qui est très beau dans la liturgie, c'est que c'est tout un mystère qui vient être enchâssé par des paroles, des gestes, tout un rituel qui permet du coup de rentrer dans cette verticalité et de quitter un peu ce monde parfois trop sécularisé, comme on l'a dit, surtout à notre temps. Et donc c'est pour ça, je pense, en tant que jeune, on peut en témoigner directement, que on a ce besoin-là de transcendance, de quitter aussi des choses que nous connaissons. On ne cherche pas à venir à la messe pour voir des choses que l'on pourrait voir ou entendre à l'extérieur, mais vraiment pour rentrer dans quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse. Parfois qu'on ne comprend pas forcément, mais c'est aussi tout là le mystère de la foi. On parlait de l'office divin, mais parlons un peu de la messe, qui est évidemment le sommet de toute liturgie et surtout de toute vie chrétienne. La messe, comme on l'a vu, est aujourd'hui quelque chose qui compte beaucoup pour beaucoup de chrétiens, surtout en ce temps de carême, comme on l'a rappelé, qui nous permet d'avancer dimanche après dimanche vers Pâques, dans ce temps du carême, et tout au long de l'année, à la suite du Christ. La messe, comment est-ce qu'on peut apprendre à mieux la connaître, pour mieux la comprendre aussi, parce que parfois, peut-être qu'on n'est pas forcément au fait de certaines paroles, certains gestes, et de leur signification. Comment est-ce que les fidèles au quotidien peuvent faire grandir cette connaissance de la messe pour mieux rentrer dans ce mystère?
Je crois qu'il y a un effort de formation qui doit être assuré par les prêtres. Hein. Il faut se dire qu'il y a beaucoup de gens qui participent à la messe, qui assistent à la messe, mais qui ne savent pas ce qui s'y passe vraiment. Et qui croient que parce qu'il y a des gestes qu'on leur fait faire, parce qu'il y a des paroles qui semblent intelligibles, ils ont l'impression de comprendre. Alors que ce qui est le cœur de la messe, c'est évidemment, comme je l'ai dit, l'acte rédempteur du Christ, son sacrifice offert, par lequel il s'offre tout entier, mais pour nous inviter à nous y offrir, et à nous offrir avec lui, et faire de notre vie une véritable offrande à Dieu. Et c'est pourquoi je dirais qu'il y a une formation qui doit être donnée dans les paroisses, par les curés, une nouvelle formation, parce que aux jeunes, et leur rappeler que la liturgie n'est pas non plus un refuge par rapport à un monde difficile qui ne nous parle pas de Dieu, mais on va se réfugier à la messe. Non, la messe, c'est, comme dit le Concile, le sommet et la source de toute la vie chrétienne. C'est le sommet de tout ce qui nous y conduit, en particulier une initiation chrétienne, une préparation de son cœur, une croissance dans la foi. Pour être conscient de ce qui se passe à la messe, il faut s'y préparer, et en particulier par le sacrement de pénitence, hein, la confession fréquente, qui vérifie notre croissance dans la foi au fur et à mesure de notre histoire. Et puis, de la messe, eh bien, il faut qu'elle soit vraiment la source d'une vie authentiquement chrétienne. Donc elle n'est pas hors sol. Il faut vraiment qu'elle soit et le sommet de tout ce qui précède, et en partie l'offrande de notre vie que nous apportons par tout ce qui fait notre existence, comme autant de sacrifices spirituels unis par les mains du prêtre au sacrifice du Christ, et puis ensuite que soit la source d'une vie authentiquement chrétienne. Dis-moi quelle charité tu as avec tes frères, dis-moi comment tu es le souci des pauvres, dis-moi comment tu es témoin de l'évangile auprès de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, je te dirai comment tu as vraiment participé à la messe.
La messe, on y participe beaucoup. Ici, à Exode, il y a beaucoup de catéchumènes qui viennent à la messe, mais qui, n'étant pas encore baptisés, ne peuvent pas communier. C'est parfois quelque chose qui peut être frustrant, mais aussi un moyen de faire grandir ce désir pour le Saint-Sacrement. Est-ce que, même en tant que catéchumène, on peut vraiment vivre une messe pleinement, sans communier, mais tout de même en gardant cette grande soif qui grandit et ne pas en fait sortir de la messe en étant frustré ou en étant un peu en manque de quelque chose qui n'est pas encore là?
C'est pour ça qu'il ne faut pas participer à la messe tout seul quand on est catéchumène. Il faut être accompagné. Moi, je vois souvent que les catéchumènes se réunissent ensemble, vont à la messe ensemble, sont avec des accompagnateurs, et même dans une des paroisses de Pau, à la sortie de la messe, où ils participent ensemble, ils vont inviter le prêtre à venir dîner avec eux, peut-être pour leur donner des explications. Voyez, je crois qu'on sent quand même que les catéchumènes trouvent dans les messes qui sont belles, qui sont théologales, qui sont tournées vers le Christ et vers le Seigneur, avec des beaux chants et avec une communauté qui est fervente et qui semble unie, eh bien, je pense que pour eux, ça parle. Mais ils ne pourront pas participer pleinement à la messe de manière complète tant qu'ils ne seront pas baptisés. Hein, c'est pour ça qu'on parle sacrement de l'initiation chrétienne. Et d'ailleurs, dans l'Antiquité chrétienne, et on le fait le jour des appels décisifs, nous on le fait aussi le jour de la récollection des catéchumènes qui précèdent les appels décisifs, eh bien, on renvoie les catéchumènes après la liturgie de la parole pour aller faire résonner cette parole dans leur vie et pas participer à l'Eucharistie parce qu'ils ne peuvent pas y participer pleinement.
Oui, du coup, la messe des catéchumènes qui vient clôturer la première partie des deux grands temps de la messe, hein, qui a d'abord un temps d'enseignement avant le temps du sacrifice eucharistique, ce renvoi des catéchumènes, il a aussi lieu à Toulouse, à la paroisse étudiante, lors des scrutins qui précèdent donc le baptême. Donc voilà. Le scrutin, une étape qui a été restaurée, il me semble, via le concile,
voilà,
pour restaurer cette tradition de renvoyer les catéchumènes à la fin de la première partie de la messe, pour parfois continuer des enseignements et pour justement préparer cette dernière montée ultime vers le baptême et vers Pâques. Ce sera le cas demain, durant la messe, il me semble.
Tout à fait. Les premiers scrutins auront lieu donc demain à la messe, donc à 14h. Une messe que vous pourrez vivre en direct sur Radio Présence. Merci beaucoup, Monseigneur Ayer, d'avoir été notre invité pour ce plateau exceptionnel en direct du village des jeunes durant la session Exode 2026.
Merci beaucoup.
Merci, Monseigneur.
Présence.
Ma prière,
le cri de ma prière.
19h29 sur Radio Présence, tout de suite, l'entretien, la rediffusion du plateau de 16h-18h durant la session Exode 2026 avec Steven et Sabrina Gunel, les réalisateurs du film Sacré-Cœur. Avec nous en plateau, Sabrina et Steven Gunel, bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes les réalisateurs du film Sacré-Cœur, Louis-Marie. On va tourner ce dernier entretien, la fatigue commence à se faire sentir, nous sommes bien en direct, autour de cette thématique.
Exactement, donc bon, déjà on va commencer avec une question assez simple. D'où est venue cette envie de faire un film sur le Sacré-Cœur et pourquoi de transmettre ce message aujourd'hui en 2026?
Ça a été d'abord... une rencontre que nous avons faite à Notre-Dame-du-Lot, un autre sanctuaire marial dans le sud de la France, avec le Père Marou et Alicia Beauvisage, qui sont vraiment des missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus. Et notre cœur a été embrasé par leur témoignage. Et c'est vrai que là, j'ai senti vraiment un appel du Seigneur à faire ce film. Steven n'avait pas écouté leur témoignage. C'est vrai que j'en voulais un petit peu au Seigneur en lui disant « Tu vas t'adresser peut-être d'abord à Steven parce que je ne me vois pas lui couper l'herbe sous le pied d'un projet qui était en cours. » Et puis, voilà, Steven va écouter ce témoignage et là, il va me dire « Mais il n'y aurait pas un truc à faire avec le Sacré-Cœur ?» Et là, on a eu de cesse que d'avoir des signes très concrets du Sacré-Cœur de Jésus pendant au moins 2 mois, que ce soit en rentrant dans une boutique de décoration à Paris, en ouvrant une Bible, en tapant sur Internet une marque de jeans, on tombait sur des Sacré-Cœurs. Bref, c'était tout le temps, partout, lancinant. Et c'est vrai qu'on voyait que voilà, la France allait mal, que le monde allait mal. Et quand on relisait ce que le Christ disait à Sainte Marguerite Marie, on s'est dit, mais c'est fou en fait, parce que c'est une impression qu'il parle pour le monde d'aujourd'hui, donc c'est vraiment terriblement d'actualité, et c'est pas du tout un truc poussiéreux, comme auraient pu nous dire quelques amis en disant, mais quand même, vous attaquez à un sujet qui est très, particulier, et peut-être que pour des catholiques.
Mais oui, en fait, on voit que l'amour de Dieu s'adresse à tout le monde. Voilà. La dévotion au Sacré-Cœur, forcément, elle est née, elle a pris une ampleur toute particulière suite aux apparitions de Paray-Monial, mais en soi, c'est une dévotion qui remonte, on peut le dire, je pense, au pied de la croix, au moment où le cœur de Jésus est transpercé. Je pense que c'est quelque chose qui est très fort et que, surtout, on remarque que ce qui est très beau dans votre projet, c'est qu'il sort de quelque chose d'intérieur qui a besoin d'être extériorisé et de montrer ça au monde et de le donner à ceux qui en ont besoin. Peut-être d'ailleurs que vous avez été surpris, je pense, des retours sur un sujet comme ça qui est pas forcément évident, ou même certains catholiques en fait sont pas forcément au courant de cette dévotion. Comment est-ce que vous avez vécu en fait cet après du film, et comment est-ce que vous avez du coup reçu ce témoignage que vous avez donné?
On a 25 ans de catholicisme dans les pattes. J'ai pas toujours été catholique dans ma vie personnellement. J'avais entendu parler de la dévotion ou de la consécration au Sacré-Cœur de Jésus en rentrant dans les boutiques religieuses avec ces petits livrets de prières qui prolongeaient les Je vous salue Marie, les Notre Père, les Credos, etc. Pour moi, la consécration, l'acte de consécration était une prière comme une autre. Et c'est vrai que ça a été un véritable courant d'air d'Esprit Saint, de feu, de Dieu, pas possible. À l'issue de cette rencontre au sanctuaire du Lot en août 23. Et c'est vrai que, dans le cœur de notre prière, à un moment donné, on a vu cette belle affiche avec ce cœur brûlant au milieu d'autres affiches. On s'est dit, super, pour le cinéma, il faut maintenant faire parvenir encore aujourd'hui, 350 ans plus tard, de façon très médiatique, de façon très cinématique, ce message, cette histoire, ces apparitions, cette relation avec Jésus et Marguerite Marie. Mmh. C'était ça le principe du film. Vous le dites, dans la façon dont les gens ont pu recevoir le message, etc., voir ce film, tous nos films, depuis 2012 maintenant, depuis qu'on fait Sacré-Cœur est le 9e long-métrage que l'on fait, mais le premier qui sort au cinéma, et tous nos films sont le prolongement de nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes contemplatifs, et nous voulons simplement mettre en image, en lumière, les films que nous aurions aimé voir. Parce qu'on a besoin d'évangéliser aussi par l'art, toujours et encore, comme ça a toujours été le cas, autrefois, avec les peintures, la littérature, la musique et autres. Et aujourd'hui, d'utiliser les technologies modernes pour apporter ce message. Sacré-Cœur, on ne l'a pas vu venir. On l'a vu venir parce que nous, on a eu un appel dans le cœur à faire le film. On s'est dit, ok, super, on y va, Seigneur. Et il ne nous a pas lâchés. Et du début à la fin, il nous a accompagnés malgré les combats. Et nous n'avons jamais rien manqué de rien. Et après, in fine, le film est présenté. Notre distributeur nous dit, si vous faites 20 000 entrées, c'est touchy comme sujet. On est en France. Jésus au cinéma, c'est pas gagné. Si on fait 20 000 entrées, c'est le bout du monde. On en est à presque 500 000 entrées aujourd'hui. Le film décolle dans le monde entier. En 15 jours, il a fait 150 000 entrées
en Pologne, il est numéro un au box-office en Italie, il débarque aux États-Unis, en Amérique latine, au Canada, partout dans le monde, dans une quinzaine de pays, en 5-6 langues différentes. On est complètement largué par la situation et on se laisse porter et émerveiller. Et on voit en effet que plus que jamais, cet amour brûlant de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, ce sacré cœur brûlant qui est le cœur du cœur de la foi, enfin montré, révélé, avec un message très simple. Voici cet amour qui n'est pas aimé. Eh bien, les gens l'accueillent enfin et visiblement, enfin enfin, ils l'accueillent d'une façon renouvelée. Il y a une soif, on le voit, notre monde vraiment plus que toujours a soif. Et on dirait que c'est une réponse à une attente de notre société, de nos sociétés.
En tout cas, c'est notre réponse à tous les deux de rendre amour pour amour. Voilà,
absolument. Alors très concrètement, comment est-ce que vous avez fait pour mettre ce projet si grand en place ?
Vas-y.
On a commencé avec une campagne de levée de fonds sur crowdfunding. En quelques semaines, des centaines de personnes nous ont accompagnés et suivis. Et s'en est suivi là-dessus le démarrage de la production, l'écriture, le casting, où tourner, avec qui, quand, comment. On a travaillé en corrélation étroite avec le père Étienne Kern, le recteur de Paray-le-Monial, à qui on avait tout de suite proposé l'idée pour savoir ce qu'il en pensait. Et si l'intuition était bien de Dieu, voilà, on voulait vraiment pas se planter.
C'est notre prière.
C'est notre prière au début de chaque projet. Et quand on lui propose le projet, il éclate de rire et il nous dit « démarre dans un mois ». L'ouverture du jubilé des 350 ans des apparitions. Et donc là, c'était parti pour nous.
C'était le feu vert du ciel.
Il nous dit, dans 18 mois, clôture du jubilé à Paray-le-Monial, je veux le film pour le présenter à toutes les congrégations du monde qui viennent. Et c'est ce qui s'est passé.
Magnifique.
Ah. Donc, et non sans la prière aussi, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de combats et on a eu l'opportunité de rencontrer une femme extraordinaire qui un matin dans son oraison m'appelle en me disant, on se connaissait pas bien, elle me dit mais moi j'ai dans le cœur qu'il va falloir prier pour ce projet, je sais que vous avez souvent des combats pour chacun de vos films. Et je lui dis ok, parce qu'on refuse pas la prière, hein. Je me suis dit elles vont être trois copines à ouvrir un WhatsApp. Et en fait une semaine après ils étaient presque 300. Donc c'était un rouleau compresseur de prières pendant plus d'un an de tournage jusqu'à la sortie du film
et elle continue de
prier pour l'international et puis pour le film suivant qui est dans les tuyaux déjà.
Et pareil, on a mis aussi dans la boucle plutôt les congrégations religieuses comme les Visitants dignes de Nantes,
ouais,
qui nous a accompagnés j'ai envie de dire perpétuellement, quotidiennement, par le rosaire, la prière et leur don de leur vie. Ouais, et puis,
et vu les combats qu'on a eus, on se dit, mais qu'est-ce que ça aurait été si...
On n'aurait jamais pu tenir. Si, voilà, on n'aurait jamais pu tenir parce qu'on a rencontré des très grandes difficultés financières, humaines, physiques, dramatiques. Il y a eu des morts. J'ai enterré mon père en pleine production, ma grand-mère. L'épouse de notre chef opérateur. Qui aurait pu lâcher ou nous péter en pleine tête.
Un technicien qui était complètement bloqué, qui a dû lâcher le tournage en plein milieu. Bref.
On sent vraiment que c'était un projet providentiel, vraiment un appel qui vous a été fait sur ça. Et vous, donc, personnellement, vous êtes tourné vers le Sacré-Cœur de Jésus avant. Et c'est vraiment ce qui vous a motivé vraiment à faire ce film. Pourquoi ? Parce qu'on n'entend peut-être pas forcément parler, parce qu'on connaît les dévotions bien sûr à Marie, etc. Mmh. Mais pas forcément Sacré-Cœur.
C'est ce qu'on a fait en fait. Quand on a rencontré Alicia et Beauvisage et le père Édouard Marot au cours de cette session mariale à Notre-Dame-du-Lot, un soir, il y avait une veillée de consécration au cœur sacré de Jésus. Et là, il y avait 150, 200 familles, ça faisait 600, 700 personnes rassemblées où on a vécu ensemble ce moment en famille, à genoux, prière de consécration, on s'est tourné vers le Seigneur, mais voilà, je vous en parle.
C'était possible.
Je vous en parle encore aujourd'hui, j'en ai des frissons parce qu'on a redécouvert une dimension nouvelle dans un acte de foi qui fait que voilà, mon rapport personnel en tant que consacré au Sacré-Cœur de Jésus prend une dimension charnelle et vient fortifier, grandir ma relation avec lui, notre relation avec lui. Et c'est de là qu'a découlé l'intuition, les inspirations, d'abord les signes, et puis après, à un moment donné, en effet, le sentiment qu'il y avait un appel.
Oui, parce qu'il fallait discerner si c'était pour nous ou si c'était pour le monde. C'est quand même pas pareil de faire un film. Mais notre leitmotiv, depuis qu'on s'est rencontrés, depuis qu'on avait envie, l'un et l'autre, d'aligner notre foi et notre art, c'est vraiment de faire la volonté de Dieu. Et chacun de nos films est une réponse justement à cette prière. Et c'est vraiment lui, c'est le Seigneur qui gère le casting, qui gère les thèmes de notre film et ce qu'on va faire ou ce qu'on va pas faire. Voilà.
C'est très beau de voir que vous avez un projet qui est entièrement porté par la prière et vous avez vraiment ce souci-là de faire les choses de la bonne manière, tourner toujours sous le regard de Dieu. Et donc, votre film très concrètement est divisé avec des parties de témoignages, mais aussi des parties plus cinématographiques. Comment est-ce que vous avez fait ce choix un peu, je pense qu'il pour vous devait être aussi assez, assez fort, de faire ces parties-là plus artistiques?
Celle de fiction, c'est notre passion au départ, hein, Sabrina et moi. On est deux artistes, on est deux comédiens, on est passionnés de cinéma. Mmh. Jusqu'à présent, on faisait ce qu'on appelait des documentaires augmentés. Donc on traitait des sujets selon la providence, donc la foi dans la persécution, la foi dans la perte de l'être cher, dans la maladie incurable, et voilà, etc. Et le sujet de la vie éternelle, cette grande trilogie Eternam qu'on a fait. Et on reconstituait, tu vois, à partir d'images qu'on trouvait sur Internet, bien évidemment l'art, les tableaux, la lithographie, etc. Et puis aujourd'hui, il y a plein de sites Internet qui proposent des banques de petites séquences. Donc voilà,
on
achetait des images. Et là, on s'est dit, pour Sacré-Cœur, vraiment, ce qui serait formidable, c'est qu'il n'y a pas d'image de Marguerite, Marie et de Jésus.
Oui.
Il y a très peu, tu vois, de reconstitution de scènes et quelques tableaux, auxquels, mais pas plus. Donc on s'est dit, on va les faire. Et puis après, on a écrit surtout, on s'est adapté aussi par rapport aux témoins de ce qu'ils nous ont livré, de se dire, tiens, ça aussi, ça serait bien, Vince, Zoé, Rodrigue, tout ça, la façon dont ils nous racontent leur histoire, comment on peut aussi interpréter, mettre en image avec des comédiens, etc. Des Vallières aussi, quand on remonte dans le temps, au moment de la guerre des tranchées, le miracle eucharistique avec Mary-Yvonne Aimée de Maletroit, et j'en passe.
En fait, on a tiré le fil, le Sacré-Cœur vient d'où? Donc en effet, on repart au temps du Christ, on repart justement de Saint Jean qui propose sa tête sur le cœur de Jésus, le centurion évidemment, qui est le longin, qui est le premier en fait à se convertir en plantant justement cette lance dans le côté du Christ, dans son cœur finalement, et puis et de voir justement comment encore aujourd'hui il touche même les jeunes générations. Enfin voilà,
donc c'était une véritable ambition derrière de lever les moyens techniques et financiers, parce qu'un film ça coûte cher.
Ouais.
Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, on est tombé en panne en pleine production au moment de la production de la partie documentaire, donc juste les interviews, tu vois, les experts, les témoins, etc. On avait vidé les caisses et on s'est dit, mais comment on va faire pour la partie fiction qui est la plus chère? Et c'est là que, providentiellement, une fois de plus, c'est Canal+ qui débarque dans la boucle à ce moment-là et qui nous achète le film et qui nous permet après d'aller récupérer.
Alors qu'il nous achète le film, sur le coup, on s'est dit waouh, super, il nous achète le film. Et en fait, on réalise qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il achète le film et il nous paye quand le film est sorti. Et là, on se dit,
quand le film est terminé,
on fait comment?
Et les contrats Canal nous ont permis d'aller voir les banques et puis de faire une autre levée de fonds.
Alors, on n'est pas allé voir les banques, on est allé voir
Credo Landing.
Et c'est des gens qui ont investi et ont récupéré leur mise un an après. Voilà.
Un investissement qui a payé, parce qu'aujourd'hui Sacré-Cœur touche que ce soit les gens, les non-catholiques. On se pose la question de qu'est-ce que c'est en fait. Et puis je pense aussi peut-être toute la contestation quand même qu'il y a eu autour de ce film,
quelques polémiques,
a fait que les gens ont été intrigués, ont été vraiment touchés par la grâce. Est-ce qu'on pourrait dire que presque la polémique vous a servi à faire découvrir
Alors, pour être très honnête, c'est jamais agréable.
Bien sûr.
Évidemment, de se prendre un bashing comme ça.
Bien sûr.
J'ai passé quelques nuits un peu à dormir un peu mal, on va dire.
Elle n'était pas voulue.
Mais on l'a pas cherché. Il y a eu un scandale ici, là, à Marseille, les affiches, la RATP, etc.
Non mais.
Et puis, que veux-tu? À un moment donné, ça a fait un petit buzz. Malgré nous,
oui, bien sûr.
D'une certaine manière, on nous fermait la porte pour parler du film, faire une campagne d'affiches, etc. Et même dans certains cinémas qui nous ont un peu blackboulés parce que c'était chrétien, parce que c'était Canal, parce que c'était plein de trucs totalement stupides de la part de personnes qui n'avaient même pas vu le film, qui ne savaient même pas de quoi ça parlait, et qui nous ont complètement directement fermé les portes. Et donc du coup, ça a soulevé des masses qui se sont dit, tiens, moi je vais quand même aller voir.
Moi, j'y vois deux choses. J'y vois une première chose, c'est qu'en effet, le fait d'avoir eu ces polémiques a permis à des personnes qui n'auraient peut-être jamais entendu parler de ce film se piquer la curiosité et aller en salle de cinéma. Donc c'est en ça où le Seigneur en a fait quelque chose de positif. Et deuxième chose, c'est vraiment l'humour de Dieu, puisque Sage avait prévu d'envoyer 100 kits Sacré-Cœur dans 10 000 paroisses.
10 000 kits.
10 000 kilomètres. J'ai dit combien ?
100.
Ah oui, non, j'exagère un tout petit peu là. Non, 10 000 kilomètres, je deviens marseillaise. 10 000 kits dans plein de paroisses, donc pour faire connaître le film. Donc ça, c'était en mois de septembre, avant que le film sorte. Et j'avais profité sur les réseaux de demander aux gens, profitez d'aller à la messe et de me dire si vous voyez l'affiche dans votre paroisse. Et là, je reçois pléthore de messages qui me disent, non, il n'y a pas d'affiche, personne l'a mis, etc. Et là, j'ai dit quand même, Seigneur, c'est ton film, c'est toi qui gères la com, parce que si en plus les paroisses ne mettent pas les affiches, je ne sais pas comment on va faire pour parler du film, parce que on n'avait pas, alors déjà, on n'a pas l'affichage.
Beaucoup
rien.
De paroisses ont joué le jeu quand même. Oui. On en a bien,
alors il y en a quelques-unes.
Mais beaucoup aussi n'ont pas joué le jeu. Quoi.
Mais c'est là où c'est drôle, c'est que le lendemain de cette exhortation de Dieu, le lendemain, eh bien, sortait la polémique des affiches et on était sur toutes les chaînes. Enfin, en tout cas, on était. En tout cas, le film était vu sur LCI, CNews et toutes les chaînes de télé. Quoi.
Bien sûr. C'est vraiment un témoignage qui touche vraiment les gens, ce retour au Sacré-Cœur. Pour conclure cet entretien, Louis-Marie, peut-être
juste une petite anecdote, parce que tant qu'on y est, autant aligner tout aligner. Donc ici on est à Lourdes, c'est pas anodin, mais il faut savoir aussi que l'église paroissiale de Lourdes au temps des apparitions, donc l'église dans laquelle Bernadette a fait son catéchisme, etc., l'église aussi est dédiée au Sacré-Cœur.
Que c'est beau.
Voilà, sachez-le comme ça. Et derrière, elle existe toujours aujourd'hui. Donc vous le saurez aussi.
Merci. C'est vraiment à Jésus par Marie.
Toujours. C'est exactement Marie, ça. C'est un beau message. Et on le retrouve aussi dans la coupole de la basilique du Rosaire. Un très beau message qui nous rappelle toujours qu'on va à Jésus par Marie. Et ici, c'est vraiment un lieu qui est propice pour ça. Donc on vous souhaite aussi un très bon séjour ici à Lourdes.
Merci.
Et on vous remercie d'être venu avec nous.
Bien sûr. Petite prise de conscience quand même qui nous a un peu pété à la tronche lors de la première avant-première à l'Homme au ciné au Kinépolis près de Lille.
C'est vrai.
Dans l'une des plus grandes salles de France, on peut pas dire d'Europe parce qu'on en a vu d'autres plus grandes encore dans le pays, mais c'est quand même 600 places payantes. Le directeur du cinéma 15 ans qui bosse là, il me dit, moi j'ai jamais vu ça. Et à la fin, on les voit tous, ces 600 personnes qui ont payé leur billet pour venir.
On est très émus.
Avec des centaines derrière refoulées parce qu'il n'y a plus de place et qu'il fallait revenir, etc. Et ben là, on regarde le public émerveillé et on se dit, mais en fait, on n'avait pas besoin d'affiches de toute manière parce que c'est vous, les affiches vivantes du film. Oui. Et c'est vous qui êtes venu voir ce film, qui allez ressortir d'ici ambassadeur du film et allez faire le.
Et sachez qu'il y a possibilité encore de proposer des séances, notamment les lycées, les collèges catholiques. N'hésitez pas à emmener vos élèves au cinéma.
Des entretiens que vous pouvez. Toujours le direct. Des entretiens que vous pouvez retrouver sur le site radioprésence.com. Louis-Marie, c'est le temps de ta chronique aujourd'hui. Un saint qui concerne beaucoup les jeunes.
Et oui, tout à fait, parce que lui-même était jeune. Il s'agit de Saint Dominique Savio, un saint qui ressemble pas forcément à l'image qu'on se fait habituellement de la sainteté. Excusez-moi, c'est le direct. Donc un grand saint, mais qui n'est pas forcément à l'image de ceux qu'on a l'habitude de voir. C'était pas un évêque célèbre, ni un martyr des premiers siècles, mais c'était un adolescent, un jeune garçon italien du XVIIe siècle, mort à seulement 15 ans, et pourtant reconnu par l'Église comme un modèle de sainteté. Il s'agit de Saint Dominique Savio. Il est né en 1842 dans une famille modeste du Piémont, en Italie. Son père est forgeron, sa mère est couturière, une famille simple, profondément chrétienne, où la foi fait naturellement partie de la vie quotidienne. Très tôt, Dominique manifeste une grande sensibilité spirituelle. On raconte qu'à seulement 7 ans, le jour de sa première communion, il écrit 4 résolutions dans un petit carnet. Je me confesserai souvent, je communierai souvent, mes amis seront Jésus et Marie, la mort plutôt que le péché. Des paroles étonnantes dans la bouche d'un jeune enfant, mais chez Dominique, ce n'est pas une piété triste ou sévère. Au contraire, c'est une joie profonde, une joie qui attire les autres. Et c'est là qu'entre en scène une figure majeure de l'Église, Saint Jean Bosco. À l'époque, Don Bosco s'occupe à Turin de nombreux garçons pauvres et abandonnés. Il fonde ce que l'on appelle l'oratoire, un lieu d'accueil, d'éducation et de prière, mais aussi un lieu de jeu et d'amitié. Quand Dominique rencontre Don Bosco pour la première fois, il a 12 ans, le prêtre perçoit immédiatement quelque chose de particulier chez ce jeune garçon. Dominique, lui, est fasciné par Don Bosco et par son projet éducatif. Très vite, il lui confie une phrase devenue célèbre. « Aidez-moi à devenir saint. » Et Don Bosco lui répond avec beaucoup de réalisme « C'est très simple, chez nous la sainteté consiste à être toujours joyeux et à bien accomplir ses devoirs. » Voilà un point essentiel pour Don Bosco, comme pour Dominique Savio, la sainteté n'est pas réservée à quelques héros extraordinaires, elle se vit dans les petites choses, étudier sérieusement, être bon camarade, aider les autres et prier avec confiance. Dominique prend ses paroles très au sérieux. À l'oratoire, il n'est pas un élève parfait au sens scolaire du terme, mais il est un ami fidèle, attentif aux autres. Quand il voit des camarades se disputer, il intervient pour établir la paix. Quand il remarque un garçon isolé ou malheureux, il va vers lui. Il fonde même avec quelques amis un petit groupe appelé la Compagnie de l'Immaculé. Leur objectif est simple, s'encourager mutuellement à vivre en bon chrétien et aider Don Bosco dans l'ambiance de l'école. Ce qui frappe chez Saint-Dominique Savio, c'est l'unité de sa vie. Sa foi n'est pas séparée de sa vie quotidienne, elle traverse tout, ses jeux, ses amitiés, son travail. Don Bosco racontera plus tard qu'il avait compris quelque chose de très profond, la sainteté n'est pas triste. Un jour, quelqu'un lui reproche de rire et de jouer beaucoup. Dominique répond simplement, ici, nous faisons consister la sainteté à être joyeux. Cette phrase pourrait être presque résumée toute la spiritualité salésienne, mais la vie de Dominique Savio est aussi marquée par la fragilité. Sa santé est délicate, il tombe souvent malade et finalement à 15 ans, sa famille doit le retirer de l'oratoire pour qu'il se repose. Quelques mois plus tard, en 1857, il meurt dans une maison familiale. Avant de mourir, il murmure ces mots étonnants. « Oh, que ce que je vois est beau !» Don Bosco, profondément marqué par ce jeune garçon, écrira plus tard sa biographie et il dira qu'il était l'un des fruits les plus beaux de son œuvre éducative. En 1854, l'Église reconnaît officiellement sa sainteté. Dominique Savio est canonisé par le pape Pie XII. Il devient aussi l'un des plus jeunes saints non-martyrs de l'histoire de l'Église.
Mais alors pourquoi on parle de lui aujourd'hui ?
Parce que Dominique Savio nous rappelle qu'une vérité essentielle, c'est que la sainteté est possible à tout âge. Dans un monde où les jeunes sont souvent présentés comme perdus, indifférents ou superficiels, Dominique lui montre le contraire. Un jeune peut être profondément spirituel, un jeune peut chercher Dieu avec sincérité, un jeune peut être un exemple pour les autres. Il nous rappelle aussi l'importance des éducateurs. Sans Don Bosco, Dominique Savio n'aurait jamais pu trouver le chemin qui lui correspondait. Don Bosco a su reconnaître son désir de sainteté, l'encourager, le guider sans jamais l'étouffer. C'est une belle leçon pour tous ceux qui accompagnent des jeunes, les parents, les enseignants, les éducateurs et les prêtres. La sainteté ne se fabrique pas, mais elle peut être accompagnée, encouragée et éclairée. Enfin, Dominique Savio est un rappel très simple pour chacun de nous. La sainteté ne consiste pas d'abord à accomplir des choses extraordinaires, mais elle commence souvent par des gestes simples. Être honnête dans son travail, prendre soin des autres, pardonner, prier et garder la joie. Comme le disait Don Bosco, la sainteté consiste à être toujours joyeux et à faire son devoir. Une formule simple, mais peut-être aussi un véritable programme de vie. Et si aujourd'hui nous demandions à Saint Dominique Savio d'aider les jeunes et les moins jeunes à découvrir que la sainteté n'est pas un idéal inaccessible, mais un chemin de joie ouvert à tous.
Merci beaucoup Louis-Marie.
Avec plaisir.
Présence.
Il est présent parmi nous, puisqu'il nous aime, il s'est sacrifié pour nous, Jésus, 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 oui, par son baptême, il est au milieu de nous. Il est présent parmi nous, puisqu'il nous aime, il s'est sacrifié pour nous, Jésus, 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 oui, par son baptême, il est au milieu de nous. Baptisé par Saint Jean-Baptiste, il invita la I'm
19h59 sur Radio Présence, c'était Dalida avec Mourir sur scène. Merci d'être avec nous et merci d'avoir été avec nous pour cette émission qui se termine. Louis-Marie, on se retrouve la semaine prochaine. Nous aurons un entretien pour un petit débrief des élections municipales et justement sur le devoir d'État en tant que catholique. Pourquoi est-ce qu'il est important d'aller voter? Très bonne soirée sur Radio Présence. On se retrouve tout de suite avec Nathalie Cardon et des clés pour vivre. Très bonne soirée.
Bonne soirée.
C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.